Eh bien, on va parler ping-pong maintenant. Ne partez pas trop vite, car le ping-pong, c'est super important et je pense qu'on ne le sait pas assez. C'est un projet original, un peu ancien déjà, il y a quelques années. Je recevais déjà Renato sur ce plateau, mais alors vous allez voir que le projet, il s'est envolé. On a fait un petit bilan là, en préparant ces entretiens. J'étais complètement bluffée. Vous êtes donc Renato Valkoviak, vous avez inventé, j'allais dire, le concept de ping-pong accessible à tous, y compris avec la maladie d'Alzheimer. Et on va voir que ça dépasse bien le malade Alzheimer. Le projet s'appelle Ping for Alzheimer. For, c'est un petit 4, hein, voilà. Et quand j'entends ping, eh bien, je sais que le pong, effectivement, n'est pas loin. Vous êtes donc directeur du LCS Tennis de Table Levallois Sporting Club, fondateur du programme Ping for Alzheimer. Et aujourd'hui, ça représente 63 clubs en France. Vous êtes présent au Canada, au Chili, en Bulgarie, en Espagne. Ça, ça s'appelle un projet qui marche. Pourquoi et comment ça marche ?
Merci, merci Agnès. Bonjour à tous. Je suis très content d'être là parmi vous. C'est vrai que j'étais venu aux entretiens Alzheimer il y a quelques années pour présenter l'amorce de ce projet. On avait commencé en Ile-de-France au club de Levallois. Voilà, donc on avait commencé en Ile-de-France par un pilote qui était au club de Levallois. Et en fait, on s'est dit... Alors moi, personnellement, j'ai été touché directement, comme beaucoup d'entre vous, par la maladie d'Alzheimer, parce que ma grand-mère est partie avec. Et comme j'étais assez loin, géographiquement parlant, de ma grand-mère et de mon grand-père, j'avais cette petite frustration qui était en moi depuis des années, et je n'avais pas pu grandement aider mon grand-père. Moi, j'ai toujours travaillé dans le sport santé. J'interviens aussi en STAPS La Sorbonne régulièrement pour des projets de sport santé. Donc c'est vraiment dans l'air du temps de trouver des nouvelles approches et des nouvelles solutions pour accompagner les patients et les familles avec du sport santé. Alors, pourquoi le tennis de table ? Donc c'est là où va être le secret d'aujourd'hui et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer en peu de temps. Déjà, j'ai besoin de votre participation. Donc levez la main, qui a déjà au ping-pong, qui a déjà joué au ping-pong dans sa vie ? Voilà, on est déjà pas mal. Donc c'est bon, vous avez la réponse. Donc, il n'y a plus rien à dire. Non, mais plus sérieusement, pourquoi le ping-pong ? Donc, dans les années 90, il y a eu une étude japonaise qui a fait des IRM sur des sujets assez âgés, avant du ping-pong et après le ping-pong, sur 3 mois. Et ils ont vu qu'au bout de 3 mois, le volume de l'hippocampe avait augmenté après les séances de ping-pong. Donc, c'est également valable pour d'autres types de pathologies et c'est également valable pour d'autres types d'activités. Mais le ping-pong, on a trouvé ça intéressant, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée à ce moment-là, c'est que c'est une approche très facile. Tout le monde a déjà joué au ping-pong, tout le monde considère le ping-pong comme un loisir et un jeu, mais c'est également un sport olympique, on l'a vu aux Jeux Olympiques, et c'est également une activité physique super intéressante. Donc en 2018, j'ai créé un petit comité local avec des kinés, des neurologues et des psychologues pour créer un contenu. Donc c'est le contenu que j'ai présenté aux entretiens Alzheimer à l'époque. Donc maintenant on sait qu'il y a 14 facteurs qui peuvent prévenir la maladie. Donc ces 14 facteurs, tout le monde peut à son échelle essayer de les modifier pour ralentir la maladie aussi. Et dans ces 14 facteurs-là, il y a 3 piliers sur lesquels nous, on s'est basé. Donc le premier, c'est évidemment l'activité physique. Donc l'activité physique, il y a des spécialistes dans la salle qui pourront vous expliquer mieux que moi, mais en termes d'oxygénation du cerveau, neuroplasticité et amélioration de la condition physique en général, c'est très très bénéfique. Donc quelle que soit l'activité physique, il y aura toujours des bienfaits en prévention et même après quand on est au cœur d'une maladie d'Alzheimer ou d'autres démences. Ensuite, nous avons la stimulation cognitive. Donc pourquoi le ping-pong crée beaucoup de stimulation cognitive ? Parce que déjà, vous allez avoir une variation dans le jeu qu'on a du mal à retrouver dans d'autres sports. Parce qu'il y en a qui me disent, ben, pourquoi pas le tennis ? Au tennis, on tape la balle, etc. Oui, effectivement, le tennis va avoir beaucoup de variations dans le jeu. Comme le ping-pong, il va y avoir des variations de rythme, il va y avoir des variations de trajectoire de balle, il va y avoir des variations de force et de vitesse. Mais au ping-pong, on va avoir en plus les effets. Donc on va intégrer selon les conditions de jeu de la personne qui pratique. Et il va y avoir aussi un volume d'interaction avec la balle qui est beaucoup plus important que le tennis. On considère qu'en une heure de ping-pong, on va toucher la balle trois fois plus qu'en une heure de tennis. Parce qu'au ping-pong, on va avoir des bassines remplies de balles et on va taper la balle, on va taper la balle. Au tennis, il faut ramasser un peu, il y a un peu moins de volume. Donc c'est beaucoup plus dense. Et surtout, le volume de jeu va être plus grand parce qu'on va avoir des séances qui sont plus longues, qui ne vont pas être agressives pour les articulations. Alors qu'au tennis, quand vous tapez pas super bien la balle du coup droit, au bout d'une heure, on commence à avoir des petites douleurs au coude ou au poignet et ça peut être traumatisant. Donc le ping-pong, on a cet avantage d'avoir une activité ludique et d'avoir une activité qui est d'abord un jeu. Un jeu, on a tous joué et c'est un jeu sur lequel on arrive avec un peu plus de confiance. Et le troisième pilier, ce sont les interactions sociales. Donc on a commencé avec ce programme par l'implémenter dans des clubs de tennis de table. Donc un club, on arrive dans une association sportive avec un groupe qui est déjà existant, avec des encadrants, des bénévoles, un entraîneur qui sont déjà là. Et là où, on va en parler tout à l'heure, là où le programme a vraiment pris de l'importance, c'est qu'on aide beaucoup les aidants aussi. Parce que les aidants peuvent, s'ils le veulent, participer à la séance de ping-pong. Donc en 2019, on a présenté à beaucoup d'endroits le programme et on a commencé à collaborer avec la Fédération internationale de tennis de table parce qu'on participait à lutter contre la mauvaise santé publique grâce au sport. Et donc l'ONU a lancé 17 objectifs de développement durable et le numéro 3, celui autour des activités physiques et du bien-être. Donc on a commencé à le développer dans plusieurs clubs en Ile-de-France. France Alzheimer s'est associé un petit peu au projet avec la fédération parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des profils de malades qui n'aimaient pas trop aller au café mémoire ou qui n'aimaient pas trop aller en accueil de jour. Parce que c'est des profils soit qui sont en début de maladie ou soit des malades jeunes qui se trouvent complètement en décalage avec le reste du public qui est là. Alors quand on arrive dans la salle de ping-pong, finalement on est tous là, il va y avoir des personnes qui ne sont pas malades, il va y avoir des aidants, il va y avoir l'entraîneur, il va y avoir des volontaires qui viennent taper la balle avec eux et tout le monde est mélangé. Donc au final un malade jeune se sent très très bien au sein du groupe. Et on arrive comme ça à les fidéliser. Donc l'adhésion, elle est plutôt facile pour la première approche. Ensuite, nous avons ce moment privilégié pour les aidants parce qu'on essaye d'intégrer les aidants dans nos séances. Donc l'aidant va devenir un joueur qui va aussi recevoir des conseils, il va pouvoir se défouler, il va pouvoir prendre un peu de temps pour soi pour faire du sport, il va pouvoir partager quelques moments avec son aidé de façon un peu plus informelle et un peu moins sérieuse, où on va sourire un peu plus, et puis il va y avoir aussi des échanges autour de la table de ping-pong. Mais il va y avoir également les aidants qui vont à un moment se poser entre eux, échanger entre eux, parce qu'ils ont entendu parler d'une nouvelle aide qui existe au sein de leur département, ou parce qu'il va y avoir le psychologue de France Alzheimer qui va être là ce jour-là et qui va faire une petite discussion avec les aidants. Et tout ça autour d'un café, au cœur d'une association. Et donc, ça fonctionne très, très, très bien pour les aidants. Mon bouton ne fonctionne plus. Si, il fonctionne. Hop. Donc, nous incitons aussi les lieux de pratique pendant les vacances scolaires, à venir avec les petits-enfants. Donc, ça permet de reconnecter les familles et d'avoir ce lien intergénérationnel avec une activité où on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de se raconter des choses. Et le petit-fils qui n'avait pas parlé à papy depuis 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois, finalement, ils vont passer 10 minutes à jouer au ping-pong. Ils vont rigoler, ils vont faire des parties, ils vont faire des doubles, ils vont faire des tournantes. Et on voit que certains malades arrivent à progresser. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer touche, donc ça commence par la masse de la mémoire qui est l'hippocampe, mais après va toucher beaucoup de parties du cerveau. Mais une des parties qui est touchée assez tardivement, c'est la mémoire procédurale. Donc c'est la mémoire qui permet de répéter le geste de ping-pong et je tape la balle. Et finalement, on arrive à maintenir des patients pendant très longtemps, à des stades très avancés de la maladie, et ils arrivent à continuer à venir jouer. Donc les situations qu'on a créées, elles sont plus ou moins différentes en fonction des profils, de l'âge et de la condition physique, mais on arrive à les maintenir en activité et surtout les garder au cœur du groupe. Donc nous avons aussi, et c'est pour ça qu'on arrive sur la partie que je n'avais pas trop présentée aux premiers entretiens Alzheimer, c'est qu'au fur et à mesure des conférences, des rencontres que nous avons eues, des clubs qui, eux, de leur côté, donnent des feedbacks et nous aident à développer des nouveaux exercices, améliorer l'approche et aussi comprendre comment on peut avoir encore plus d'impact pour aider toutes ces familles qui viennent. Nous avons remarqué qu'avec certains exercices, on arrive à les maintenir concentrés plus longtemps. Donc concentrés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà d'une, leur donner envie de faire un exercice. Donc c'est très ludique, c'est sous forme de jeu. Et surtout, avoir un moment où on va les hypnotiser avec le tennis de table. Donc il y a le rythme de la balle, il va y avoir des placements de balle, il va y avoir une sorte de musicalité dans le jeu, qui va happer la concentration des patients, et on arrive à avoir comme ça 2-3 exercices qu'on a dans le programme pour les maintenir sur des exercices pendant très longtemps. Donc on a l'exemple d'Étienne que je prends à chaque fois parce que c'était un malade jeune, il avait 65 ans, et lui, sa femme arrive et elle nous dit moi Étienne, il a toujours été très sportif, je pense qu'il va adorer le ping-pong, mais par contre, à la maison, j'ai beaucoup de mal à le garder à faire une activité pendant plus de 5 minutes. Donc, elle était très dynamique, elle essayait de faire un maximum de choses, comme tous les aidants. On en a parlé tout à l'heure, vous faites déjà beaucoup. Et donc, à la maison, elle mettait en place tout pour faire une recette de cuisine ensemble. Tout était en place. Ils se mettaient à cuisiner avec Étienne. Étienne commençait à cuisiner. Au bout de 3 minutes, il partait se balader, il ne revenait plus dans la cuisine. Pour la peinture, c'était pareil. Elle mettait tout en place pour peindre ensemble. Ils se mettaient à peindre. Et au bout de 3 minutes, Étienne, il partait se balader et faire autre chose et bouger les meubles, etc. Il est venu pour la première fois au ping-pong. Il a joué 2 heures sans s'arrêter. Il n'a pas bougé devant la table. Et il jouait. Donc, il n'avait pas de problème physique. Donc, il a réussi à jouer. Il était en début de maladie. Il était en super condition physique. Mais il est resté devant la table pendant 2 heures. Et c'est là que sa femme a dit, non mais là c'est magique, c'est la première fois que je le vois comme ça. Il sourit alors que ça faisait déjà un mois que je le voyais plus sourire à la maison. Donc c'est parti. Et donc du coup, Étienne venait 2 fois par semaine. Donc là, c'est des photos pendant la séance. Et par rapport à l'impact que nous avons remarqué et le feedback que nous avons eu des différents clubs, c'est qu'on a remarqué aussi que ça permettait de mieux réguler les heures de sommeil. Donc les patients qui avaient fait du ping-pong pendant 1h30, 2h la journée, le soir dormaient mieux et souvent ils dormaient mieux aussi le lendemain. Donc pendant 2-3 jours, il y avait une régulation du sommeil. Notamment parce qu'on parle d'Alzheimer, il y a aussi tous les types de démence, donc on a Cordelévy où il y a énormément de troubles du sommeil. Et nous avons des personnes qui nous ont dit que le jour qui suivait l'activité physique, ils dormaient mieux. Et c'est également valable pour l'alimentation. Ça permet de réguler un tout petit peu plus. Donc pour répondre à certaines questions de ce que vous pouvez faire à domicile, toutes ces routines que vous pouvez mettre en place à la maison vont beaucoup aider au rythme de la personne, que ce soit en termes d'alimentation ou en termes de sommeil. Plus vous allez créer des routines, plus ça sera facile à la maison. Donc le programme en soi, nous avons quand même développé beaucoup de types d'exercices et des situations pour le savoir-être et le savoir-faire des encadrants. Donc ce n'est pas juste un moment de ping-pong récréatif, c'est un peu plus que ça, où il y a tout un protocole et un processus d'accueil et d'encadrement. Donc on essaye vraiment de jouer sur plusieurs aspects, donc je ne vais pas tous les décrire là, je n'ai pas le temps, mais on travaille beaucoup sur les ancrages et la mémorisation. Donc comment ça va se passer, c'est que quand on va faire certains exercices, on va approcher le patient toujours de la même façon, on va employer les mêmes mots, on va faire exactement les mêmes choses aux mêmes endroits, et ça permet sur certains patients qui restent avec nous pendant 4-5 ans, sans leur expliquer ce qui va se passer, ils le savent déjà. Donc ça permet de les maintenir aussi pendant plus longtemps dans l'activité, parce qu'ils ont ces ancrages que nous avons protocolisés au cours de la séance. Donc notamment on a des jeux d'équilibre, parce que le but de tout ça c'est quand même de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Donc on a toujours des jeux d'équilibre au cours de la séance, Donc c'est des jeux d'équilibre ultra simples. Et ces jeux d'équilibre ont toujours un mot qui est un déclencheur. Donc par exemple, tout simplement, on a le flamant rose. Donc on fait le flamant rose, on se met en position et on compte, etc. Et on fait ça toutes les semaines. Et on a des patients qui sont là depuis 5 ans et qui ne peuvent plus aller chez le kiné parce que le kiné n'arrive plus à leur expliquer ce qu'il faut faire. Ils ne vont plus chez l'orthophoniste parce que c'est des patients qui ne parlent plus. Et nous, on les reçoit, on leur dit jeu d'équilibre, flamant rose, et on voit une intention de se mettre en équilibre. Donc on les accompagne, on est avec eux, là, c'est quand même des patients qui sont à des stades très avancés. Donc on sait qu'il y a quand même une réceptivité et on a un impact encore très très loin dans la maladie, mais ce qui est difficile, c'est de savoir comment avoir une aide possible autour de ces stades qui sont très avancés et beaucoup plus compliqués. Donc le programme s'est beaucoup développé. Donc en France, nous avons une 60aine de clubs, nous en avons 9 à l'étranger. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on s'est déployé également dans des établissements médico-sociaux. Donc nous avons quelques EHPAD et 2 accueils de jour qui ont commencé le programme aussi. Parce que donc l'idée, c'est d'avoir du contenu pour pouvoir accompagner les patients toutes les semaines et quelquefois tous les jours même au sein des EHPAD. Et surtout, ça leur donne un média de communication avec les familles. Donc on l'a vu tout à l'heure, le côté intergénérationnel est intéressant. Mais certains EHPAD, ils remarquaient que quand la famille venait visiter, donc les visites s'espaçaient de plus en plus, parce qu'au bout d'un moment, bah, la visite, il ne se passe plus rien. Et aussi, quand les petits-enfants venaient, bah, ils s'asseyaient, ils jouaient à Candy Crush pendant 2 heures, et il y avait zéro interaction avec papy et mamie. Donc là, l'idée, c'est de créer un lieu de vie autour de la table de ping-pong, où ils prennent un goûter, ils font une partie de ping-pong, ils échangent des sourires, et beaucoup moins de pression en face-à-face, autour de la rencontre.
Du coup, vous formez les équipes pour qu'elles puissent mettre ça en pratique quotidienne dans l'EHPAD.
Oui, c'est ça. Nous, on forme soit l'animateur de l'EHPAD, soit la personne médico-sociale qui s'occupe des activités. Et donc, par rapport au premier retour sur le programme dans un club, en moyenne, les participants restent 28 mois, en sachant que ça va de très long. On a des patients qui sont là depuis 5 ans et d'autres qui restent 6 mois parce qu'au final, la logistique de l'aidant, elle est compliquée et on se rend compte qu'on dépend beaucoup des aidants. Donc tout ce que vous, les aidants qui sont là, vous faites est très important, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de structures qui vont vous aider. Donc c'est hyper important. Dans toutes les conférences, on le dit, faites-vous accompagner le plus tôt possible. C'est très très important. Voilà, donc plus de 1400 familles ont participé au programme sur les différents clubs. Et pour finir, juste un mot plutôt important, c'est que même si la recherche avance et on continue à trouver des remèdes, toutes ces approches non médicamenteuses sont importantes. Mais ces approches seront toujours complémentaires aux médicaments. Donc faites un don pour la recherche, donc faites un don à l'association et à la fondation Recherche Alzheimer, parce que les deux approches seront toujours complémentaires dans 10, 20, 100 ans. Donc on a besoin de vous. Merci beaucoup.
Merci Renato. Une précision, le ping-pong, ça coûte pas cher?
Ça coûte pas cher, non.
Il n'y a pas besoin d'un équipement très onéreux?
Bah, en fait, c'est ce qui fait un peu le succès du programme. C'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. L'équipement coûte très peu cher et c'est très facile d'accès.
Et vous, à Strasbourg, vous avez la chance d'avoir un club.
Voilà. Donc, avant de partir, je vous invite à aller voir Anne Pereira, qui est au Stand Ping for Alzheimer. Elle est chercheuse en neurosciences, mais surtout, elle est pongiste et elle s'occupe du club de tennis de table de Strasbourg. Et ils ont commencé à faire du ping-pong depuis 3 ans, toutes les semaines. Donc, approchez-vous d'Anne, prenez ses coordonnées. Parce que, et puis même si vous ne pouvez pas faire du ping-pong cette année, essayez de maintenir une activité, de commencer une activité, ne serait-ce qu'aller marcher tous les jours, c'est super important.
Ça donne super envie. Merci beaucoup Renato.
Merci,
et encore bravo pour cette initiative et son succès.